Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, la commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, très critiquée pour sa visite en Chine.
Oui, Michelle Bachelet a conclu samedi sa visite de 4 jours dans le Xinjiang, où sont enfermés, d'après les études occidentales, plus d'1 million de musulmans, qu'ils soient ouïghours ou kazakhs, entre autres. L'ancienne présidente chilienne, à la tête jusqu'en septembre encore de la commission onusienne des droits de l'homme, assure ne pas avoir été supervisée dans ses accès au centre de détention, que le régime chinois appelle centre de formation professionnelle. Elle se félicite d'avoir pu rencontrer des membres de la société civile dans la région et d'avoir parlé franchement, c'est le mot qu'elle a employé, aux dirigeants communistes dont Xi Jinping, avec qui elle s'est entretenue à distance. Alors que sait-on réellement de ce qu'elle a pu faire sur place et de qui elle a pu voir? Au-delà des discours, somme toute très diplomatiques et mesurés, la Commission des droits de l'homme peut-elle agir en coulisses? Bonjour Pierre-Antoine Donnet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédacteur en chef de l'agence France Presse, spécialiste de la Chine et du Tibet. Vous avez publié l'année dernière « Chine, le grand prédateur » aux éditions de l'Aube. Alors Pierre-Antoine Donnet, Michelle Bachelet avait demandé, avant d'arriver en Chine, elle avait demandé une visite qu'elle disait sans entrave, des entretiens non surveillés. Est-ce qu'on sait le plus précisément possible à quoi elle a eu véritablement accès ?
Bah, écoutez, c'est très simple. Sa visite a été longuement préparée par ses assistants, ses collègues.
Longuement, c'est quoi ? 3 ans ?
Oui, c'est ça.
Mais, c'est énorme, 3 ans.
Voilà. Mais la partie chinoise, elle aussi, avait tout préparé. Donc, il est assez clair qu'elle n'a pratiquement rien vu. C'est une visite Potemkin. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle a dit qu'elle avait visité un centre de détention à Kashgar, elle l'a peut-être effectivement visité, mais les personnes qu'elle a vues avaient été conditionnées pour lui répondre comme il convient.
Conditionnées comment ?
C'est-à-dire que les autorités chinoises sur place leur avaient dicté ce qu'ils devaient répondre.
Comment on le sait, ça ?
C'est une pratique courante en Chine, vous savez. À l'époque, quand une délégation de l'Organisation mondiale de la santé s'était rendue à Wuhan pour essayer de trouver ce qui s'était passé,
pendant le Covid ?
Voilà, pendant le Covid, une enquête sur l'origine du virus, eh ben c'est pareil. La Chine avait tout préparé. Elle avait elle-même d'ailleurs sélectionné ceux qui allaient se rendre sur place. Eh ben, ils n'avaient rien vu, on leur avait servi la soupe.
L'ambassadeur d'un pays d'Europe centrale qui a visité le Xinjiang à l'invitation du gouvernement chinois a raconté lui aussi au journal Le Monde qu'à chaque fois qu'il y avait un déplacement officiel, les personnes rencontrées étaient toujours les mêmes. Lui, il avait pu confronter ses rencontres avec d'autres ambassadeurs et à chaque fois, il se rendait compte qu'ils avaient vu les mêmes personnes.
Oui, bien sûr. Vous savez, il y a déjà quelques années, des journalistes de l'agence France Presse du bureau de Pékin s'étaient rendus sur place au Xinjiang. Ils étaient suivis partout. Et à tel point que c'était très difficile pour eux de rencontrer quelqu'un, parce qu'ils mettaient en danger les personnes qu'ils allaient rencontrer.
Alors quand Michelle Bachelet dit qu'elle a visité un centre, dit-elle, avec un accès assez libre, dit-elle encore, pour rencontrer des détenus, alors on imagine bien par ailleurs que si les détenus en question n'avaient pas été prévus dans le parcours, ils auraient été inquiétés, c'est ce qui s'est passé pour nombre d'entre eux. Elle dit aussi avoir eu la certitude et la confirmation du dirigeant chinois Xi Jinping que certains centres avaient été fermés et qu'elle en aurait visité un centre fermé. Il y en a, quelles informations on a à ce sujet, un centre qui a été démantelé en fait.
Oui, mais tout ça c'est faux. Les autorités chinoises mentent à longueur de journée. La propagande chinoise, elle est reçue à l'étranger, un peu partout, par les organes de presse chinois. Longtemps on y a cru, mais aujourd'hui on se réveille et on se rend compte à quel point c'est de la désinformation.
Mais ça veut dire quoi, que le centre avait été vidé pour la visite d'après vous ou que
vous savez, tout ça c'est tout à fait possible. Tout est monté de toutes pièces. Donc quand elle a visité ce centre, il n'y avait strictement rien à voir de vraiment sincère et authentique.
Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la façon dont sont bâtis, construits ces centres de formation, comme le dit formation professionnelle, comme le dit Pékin, centres de détention, comme le disent les ONG. La police est à l'intérieur ou à proximité? Parce que les Xinjiang Police Files qui sont sortis la semaine dernière ont donné un peu plus de détails sur ces centres.
Oui, bah écoutez, en fait, cette répression au Xinjiang a commencé en 2015. Et là, c'est très clair, qui en est l'architecte numéro un, c'est Xi Jinping. Et à l'époque, quand ça a commencé, il pensait que ça ne se saurait jamais. Or, voilà, de plus en plus, on sait très précisément ce qui se passe. Des femmes ouïghours qui sont parties à l'étranger, qui ont pu se réfugier, parlent devant des caméras et elles disent très bien ce qui s'est passé, ce qu'elles ont enduré.
Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a deux femmes, deux Ouïghours en France qui ont pu s'échapper des camps.
Oui, oui, mais elles sont plusieurs centaines à travers le monde et leur récit, c'est absolument terrifiant. C'est quoi ? C'est des tortures, des viols, des stérilisations forcées. Et ça veut dire quoi ? Ce sont des marqueurs d'un génocide.
Et c'est ce que le tribunal ouïghour à Londres a d'ailleurs, c'était sa conclusion en décembre, un tribunal ouïghour qui était un tribunal d'opinion, comme on dit, de ces commissions qui ne prononcent pas de peine, mais qui proposent néanmoins un jugement fondé sur des preuves, à charge pour la justice internationale ou la diplomatie de s'en emparer. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas pour cette fois-là. Et en plus de stérilisation forcée, on a conclu également, ce tribunal qui a travaillé vraiment des mois hein, sur des documents très précis, a conclu aussi à des meurtres on parle de meurtres dans ces cas-là, sur des femmes enceintes de 8 mois qu'on a forcées à accoucher. Donc, un génocide par élimination de sa population, mais pas par meurtre de masse. Qu'est-ce que le tribunal ouïghour, là, a pu, depuis décembre, qu'est-ce qu'on a fait de ces conclusions-là ? Michel Bachelet, on a eu connaissance, c'est sûr.
Bien sûr, elle sait tout ça. Il n'y a aucune ambiguïté sur la question. Quant au tribunal qui s'est réuni à Londres, il a entendu, évidemment, des témoignages de femmes et d'hommes ouïghours. Donc tout ça, c'est basé sur des témoignages très précis. Mais en même temps, les conclusions de ce tribunal sont ce qui s'appelle non coercitives. C'est-à-dire, ça ne peut pas être suivi des faits dans la loi internationale. Mais c'est un pas de plus. Quant à ces centres de détention pudiquement appelés des centres d'éducation professionnelle, eh bien, les photos satellites, elles sont très nombreuses, elles montrent bien. Il y a plusieurs centaines de ces camps où sont détenus au moins 1 million de Ouïghours, de Kazakhs, d'Ouzbeks et d'autres.
Quand Michel Bachelet dit aussi avoir rencontré des membres de la société civile, qui sont les membres de la société civile ? Qui sont les associations actives dans le Xinjiang ? Le sont-elles librement ? Et est-ce qu'elles travaillent particulièrement sur la question Ouïghour ?
La société civile, au Xinjiang, comme au Tibet, comme ailleurs en Chine, elle est réduite au silence, la vraie société civile. Ceux qui s'expriment sont télécommandés, c'est pareil. Ils ont appris par cœur ce qu'ils allaient répondre à Madame Bachelet.
Et la Chine, alors comment est-ce qu'elle a présenté cette visite dans la presse, dans les médias officiels chinois ? Qu'est-ce qui a été dit à ce sujet ?
Écoutez, c'est très simple. À la fin de la visite de Madame Bachelet, le vice-ministre des Affaires étrangères chinois, Ma Zhaoxun, a déclaré « Cette visite a apporté une opportunité pour Madame Bachelet d'observer et de recevoir une expérience de première main sur le vrai Xinjiang. » Et donc, si vous voulez, à l'intérieur de la Chine, évidemment, les Chinois, qui d'ailleurs n'ont jamais été associés à cette répression ouïghour, eh bien, c'est pareil, ils n'ont qu'une version de ce qui se passe sur place. C'est la version officielle chinoise.
Michel Bachelet s'est aussi exprimé devant des étudiants de l'université de Guangzhou, où elle a parlé de la nécessité d'un espace critique ouvert pour exprimer toutes les opinions et rechercher le changement. Est-ce qu'on sait comment ce discours a été reçu et est-ce que la presse chinoise s'en est fait l'écho ?
Écoutez, je dois reconnaître quand même qu'il y a d'abord un fond de sincérité de Madame Bachelet et aussi un certain courage. Ça, c'est absolument clair. Mais en même temps, quand elle est arrivée à Canton mardi la semaine dernière, elle a été accueillie par le ministre des Affaires étrangères chinois, Monsieur Wang Yi. Et la bonne idée qu'il a eue, c'est de lui offrir un livre de Xi Jinping sur les droits humains.
Il a écrit un livre sur les droits humains ?
Oui, bien sûr, mais c'est la conception chinoise des droits humains.
Et qui dit quoi alors ?
Qui dit qu'en fait, le choix est simple, c'est manger à sa faim ou les libertés personnelles. Mais l'un ne va pas sans l'autre.
La visite dans le Xinjiang de la commissaire des droits de l'homme de l'ONU peut-elle avoir des effets à moyen terme sur la politique de répression des Ouïghours ? L'invité des enjeux internationaux est le journaliste Pierre-Antoine Donnet.
Alors comme effet à moyen terme éventuel, Michel Bachelet a proposé au dirigeant chinois Xi Jinping une assistance technique pour l'accompagner dans ses efforts pour la protection des droits de l'homme. De quoi peut-il s'agir ?
Mais vous savez, là aussi, le message, elle l'a envoyé aux autorités chinoises. Ces messages ne seront pas suivis des faits. Pour élargir un peu l'image de ce qui se passe au Xinjiang, le laboratoire de la répression au Xinjiang contre les Ouïghours a été le Tibet. Le Tibet a été envahi par les troupes chinoises en octobre 1950. Il y avait 80 000 soldats de l'armée populaire de libération. Et depuis 1950, c'est clair, c'est pareil. Les Tibétaines, violée, torturée. Donc, le laboratoire de ce qui se passe au Xinjiang aujourd'hui, ça a été le Tibet.
Le Tibet où vous êtes allé longuement quand vous étiez correspondant de l'AFP en Chine, Pierre-Antoine Donnet, vous en aviez écrit, fait un essai, le Tibet mort ou vif. Globalement, qu'est-ce que peut faire l'ONU du rapport qui sera fait de cette visite? Parce que certes, il y a les discours officiels, il y a les photos officielles qui peuvent gêner notamment les ONG et plusieurs États, mais il y a les coulisses. Est-ce qu'on peut pas aussi se dire, Pierre-Antoine Donnet, qu'en fait, c'est en coulisses que tout va se passer et que Michel Bachelet, pour l'instant, elle sauve la face pour pouvoir avancer sur le dossier chinois à l'ONU?
Oui, mais effectivement, c'est essentiel. Alors, ce rapport, il est en préparation déjà depuis 2018. Et le bureau de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme travaille avec acharnement sur ce rapport. Il va être publié. Sa publication a été différée à de nombreuses reprises du fait des pressions chinoises. Je pense qu'effectivement, Mme Bachelet est venue au Xinjiang pour justement permettre la publication de ce rapport. Et ce rapport sera probablement dévastateur pour la Chine, malgré le fait que l'emprise chinoise sur les Nations Unies est immense.
Quelle emprise alors? Comment la Chine, pourquoi et comment la Chine réussit pour l'instant à endiguer cette critique-là de la communauté internationale?
Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que la Chine est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. La deuxième raison, c'est que les autorités chinoises ont fait main basse sur toute une série d'organisations des Nations Unies. Il y en a une bonne dizaine où les dirigeants de ces organisations onusiennes sont tenus par des Chinois.
Pierre-Antoine Donnet, peut-être un petit mot pour conclure, puisqu'on disait tout à l'heure que la justice internationale ne s'était pas saisie des conclusions du tribunal ouïghour de Londres qui a conclu à un génocide avec des personnalités très reconnues dans leur travail comme Geoffrey Nice qui était procureur dans le procès de Slobodan Milosevic, entre autres, devant le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Néanmoins, le Tadjikistan est un État parti au statut de Rome. La CPI a donc compétence pour enquêter sur son sol. Or, le Tadjikistan, on sait que les Ouïghours sont passés d'environ 3000 il y a 15 ans à une centaine aujourd'hui. Est-ce qu'il est question que la justice internationale enquête au Tadjikistan, se déclare compétente.
Bien sûr, comme au Kazakhstan, pareil. Si vous voulez, le Xinjiang est révélateur d'une situation en Chine terrifiante, absolument terrifiante.
Je renvoie les auditeurs à votre livre « Chine, le grand prédateur » paru aux éditions de l'Aube. Merci Pierre-Antoine Donnet d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Merci, les enjeux c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux. Julie Gacon à 6h45.
France Culture, l'esprit d'ouverture.